Ball Alternatif est un podcast du Calvin Ball Consortium.
Eh bien, bienvenue dans la timeline alternative de Calvin Ball, une timeline où Zali n'est pas présentateur, comme vous avez pu le remarquer. L'organisation s'est faite relativement en autogestion, mais la structure, ça reste la même qu'un Calvin Ball standard. C'est donc complètement aléatoire, les thèmes ont été tirés dans un Hobbs Ball, mais je ne sais plus lequel. si vous ne connaissez pas de Calvin Ball, donc c'est une émission à thématique aléatoire, créée par Zali Falcam. Et donc, nous sommes une timeline alternative, et donc, je suis accompagnée de Orifan, salut Ori, de Yatos, salut Yatos,
salut Badvador,
et de Myrlène, salut Myrlène.
Bonsoir.
Et donc, pour cette émission, nous avons donc tiré, je crois que c'était 6 thèmes.
6 thèmes, ouais.
C'est ça. Et est-ce que quelqu'un veut présenter les thèmes?
Allez, je me lance.
Vas-y.
Alors, on a d'abord des thèmes musicaux. On a « Face à la mer ». Les pauses musicales ont toutes le même titre, mais ne sont pas les mêmes chansons. comme thème musical, on avait aussi « Chante avec les stars », uniquement des chansons avec des célébrités qui ne sont pas des chanteurs. Et c'était tout pour les thèmes musicaux. Orifan enchaîne avec les thèmes avec les thèmes culturels.
Oui, alors on a Calvin avec Hobbes, qui est un thème qui est déjà tombé plusieurs fois, je crois.
Donc, au moins une fois.
On parle de notre comic strip préféré. On a également coupé Mathieu Gallet. On parle de la vie et de l'œuvre de l'inventeur du podcast en France. Et ensuite, nous avons la Booba Appreciation Society. Donc, on regarde des épisodes de la série pour enfants Booba, qui n'est pas le petit ourson.
Non, Pierre, c'est la série britannique de 2003.
Voilà, et ces épisodes ont été tirés au hasard par Jock. Et le dernier thème, c'est « Nous sommes berbères », donc la culture berbère, sa cuisine et ses films.
Et donc, il y a un modificateur qui s'applique à cette timeline pour le moment. Est-ce que tu veux nous en parler, Myrlène? Peut-être.
Non. On a perdu Myrlène. Ça commence très bien.
Alors, oui, je veux bien.
Les épisodes sont enregistrés deux fois.
On l'a réveillé, paraît pas trop fort.
Interro surprise, je dormais au fond de la classe. Alors, le modificateur s'appelle Calvin Ball.
Tu le fais très bien.
Parfait.
Oui, tu le fais très bien.
Et chaque tirage au sort donne lieu à deux émissions de suite exactement sur le même thème. Voilà, vous en faites ce que vous voulez.
Le prochain épisode sera donc avec strictement les mêmes thèmes.
Donc plus de Mathieu Gallet.
Plus de Booba.
Ouais. et donc, avant de se lancer, on va faire une première pause musicale et je te laisse, Orifan, la présenter.
Oui, alors, donc on va commencer par le thème musical qui était toutes les chansons ont le même thème.
Le même nom.
Du coup, pour faire ça, j'ai pris tout bêtement une liste des 100 titres de chansons les plus utilisés, au top 100 ou au top 50, je crois. Et j'ai fait un 1, et donc toutes les chansons vont s'appeler Let It Go. Et on va commencer avec... Ouais, pour la première, j'ai regardé dans ma playlist et j'ai pris une chanson que j'aime bien. Et c'est Gabriel Rios, Let It Go.
Thank you. black hole diamond world filled with brave little men. Don't get caught in the trend of living life at the end. Been stealing, but you be giving it up when it's gone. Don't hold on, let it go. When it's gone, don't hold on, let it go. And you will see that the stuff you're made of, what you think is dying, is worms living on. Dark, I can shine like a spark, forgetting the world like I'm someone's lost star. There was a hole in the girl where I could sit and pretend. Oh, when it's gone.
Nous voilà, et avec la première rubrique, donc qui sont une fusion du thème Nous sommes berbères et les recos culturels. Donc on va faire une reco culturelle en lien avec la culture berbère. Qui veut commencer, Myrlène?
Oui. Oui, maîtresse. S'il vous plaît, ne me rajoutez pas encore 2 heures de colle.
Tu regarderas un épisode de Booba en plus.
Non, non.
Oui, 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 oui.
Je ne pourrais pas être à ta place.
Oui. Exact. Mais on va commencer avec la recommandation en lien avec la culture berbère. Donc, il s'agit du documentaire Arte, qui est Arte Géo, plus précisément, sur le tatouage berbère. C'est un documentaire qui est accessible sur le site d'Arte en replay ou sur leur site YouTube ou sur leur chaîne YouTube, pardon. Et ça dure à peu près 50 minutes et c'est un documentaire que j'ai beaucoup apprécié, même si pour moi il a un angle mort qui est vraiment dommageable, à savoir qu'on te parle des évolutions de la société tunisienne entre les années 1950 et 1960 sans jamais prononcer le mot colonisation. Pour rappel, la Tunisie a été indépendante en 1956. Et ensuite, en ce qui concerne le documentaire en lui-même, on suit une jeune femme qui s'appelle Manel, qui est l'une des très rares tatoueuses tunisiennes. Alors, il faut savoir qu'en Tunisie, la profession de tatoueur n'est pas légale. Il y a un seul tatoueur qui a réussi à légaliser son métier, et c'est entre autres parce qu'il propose d'effacer les tatouages. Ouais. Les tatouages sont très très présents dans la culture berbère, qui est surtout concentré vers le sud du pays, enfin, du moins dont les gens qui sont encore de cette culture sont surtout concentrés vers le sud du pays. Et c'est quelque chose que l'on ne voit quasiment plus chez les jeunes. Donc, comme je le disais, on suit Manel qui aimerait bien en savoir un petit peu plus sur cet héritage berbère et qui va partir à travers la Tunisie pour rencontrer des femmes et des hommes berbères qui vont lui montrer ses tatouages, lui dire ça on me l'a fait par exemple quand j'étais une jeune fille pour préserver ma chasteté, et on disait aussi par exemple que une femme qui n'est pas tatouée ressemblait à un homme. C'est pour ça que, par exemple, on voit une femme âgée avec un tatouage sur le menton. Et on t'explique aussi comment ces tatouages étaient faits et toutes les traditions qui y étaient liées. Sachant qu'aujourd'hui, le tatouage est tombé complètement en désuétude en Tunisie parce que c'est associé à la marginalité, à la criminalité, mais également à l'ère pré-islamique et à tout ce qui est culture païenne, chrétienne, juive. Donc, pardon pour ma gorge, promis, j'ai pas le Covid. Donc, c'est un documentaire qui est, comme tous les documentaires d'Arte, ça prend vraiment son temps. Et c'est quelque chose que je vous encourage à regarder parce que malheureusement, comme Manel le fait remarquer, tout ce qui est culture et tradition berbère a tendance à se perdre de plus en plus, alors que c'est une bonne partie de l'identité de la Tunisie et ce serait vraiment dommage qu'on oublie toutes ces traditions. À un moment, il y a des chansons, on te montre aussi des tapis, des broderies avec livres traditionnels berbères, des feuilles de palmier, des scorpions. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très bien fait. Il y a beaucoup de douceur dans la façon de filmer les corps, même si, comme je le disais, mon gros regret, c'est qu'il y a cet angle mort sur la colonisation.
Comment il s'appelle ce... Il a un nom ou c'est... Le documentaire, je veux dire, si on veut le retrouver.
Je te retrouve le nom exact. Tunisie, l'art du tatouage berbère.
Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé qu'elle était hyper bienveillante avec les vieilles femmes qu'elle allait rencontrer.
Oui.
Elles sont vraiment trop badass.
Ah, mais carrément.
Elles ont des tatouages sur tout le corps. C'est hyper impressionnant.
Ensuite, concernant ma deuxième recommandation culturelle, il s'agit d'un roman de fantasy. Mais attention, vous pouvez également le lire si vous n'êtes pas spécialement fan du genre. Il s'agit de Les Poisons de Catharse par Audrey Alouette, qui est sorti en 2018. Alors, c'est un roman de fantasy, mais c'est surtout un roman humoristique. Le pitch de base, c'est qu'un jour, un démon nommé Salbette s'est foutu sur la gueule avec un ange nommé Poutrelle.
Excellent nom pour un ange.
Ouais, carrément.
Et que Poutrelle a enfermé Salbette sous terre en disant que Salbette pourrait s'en libérer seulement si un jour il y avait 100 000 âmes au-dessus de sa prison. Et suite à ça, des gens sont venus, une ville s'est bâtie, et tout l'enjeu du roman, avec les personnages que l'on suit, c'est que cette ville ne dépasse jamais les 100 000 âmes. Donc bon, même s'il y a un sacré gros enjeu, ça reste quand même quelque chose qui est drôle, qui est léger. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu les classiques de la fantasy pour l'apprécier. Il y a même des blagues sur Handler du pénis. Mais ça tombe jamais dans le graveleux, et voilà. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, et je pense qu'en ces temps où tout le monde est un petit peu déprimé, ou bon, c'est l'hiver, il y a le coronavirus, le gouvernement fait de la merde, si vous avez envie de 400 pages qui vous apporteront du rire et de la bonne humeur, c'est le bon ouvrage.
Très bien.
Cool.
Merci pour ces recommandations. Assez cool.
Carrément. Ori ?
Ouais, alors, moi je l'avoue que pour les recommandations, je séchais complètement. Oh. Donc ce que je suis allé faire, c'est très Calvin Bolcore comme méthode, c'est que j'ai regardé les films qui étaient sortis au Festival du film berbère, et j'ai tiré un film au sort. Voilà. Et donc j'ai regardé Adios Carmen.
Je l'ai vu aussi en cherchant. Enfin, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu la même liste, effectivement. Okay.
Qui est un film de, j'ai plus son nom, Mohamed Amin Ben Amraoui. C'est un peu un film autobiographique, enfin inspiré de la vie, qui se passe au Maroc dans les années 70-75. C'est une période où Franco est presque mort, et du coup il y a des tensions entre l'Espagne et le Maroc pour un territoire dans le Sahara, je crois. Chose comme ça. Et donc ça suit l'histoire d'un petit garçon qui se fait complètement bully par tout le village. Il y a vraiment tout le village qui lui met la misère pour diverses raisons. C'est très triste. Sa mère est partie vivre en Europe pour essayer de gagner de l'argent et dans l'espoir de récupérer ça. Et il va sympathiser avec une Espagnole qui a fui le régime de Franco et qui gère un cinéma. Et donc, il va découvrir avec elle le cinéma, et puis ça va être un peu la seule personne gentille avec lui. Et c'est vraiment chouette de ce que ça dit du Maroc de cette époque-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, j'ai appris quelque chose d'étonnant, du coup, c'est qu'au Maroc, à cette époque-là, dans les cinémas, on regardait des films de Bollywood. Et c'est assez étonnant. Il y a plusieurs scènes où ils sont au cinéma et où ils regardent des films de Bollywood et après ils chantent des chansons indiennes. C'est vraiment étonnant. Et voilà, y a un côté un peu forceur dans le cinéma vous ouvre les portes du monde entier. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment touchant comme film.
Donc,
Voilà.
Adios Carmen, c'est ça?
Adios Carmen.
Cool. Yatos, t'avais trouvé une...
Alors, en vrai, j'ai absolument rien de. J'ai pas du tout fait mes devoirs. Maîtresse, j'ai pas fait mes devoirs.
Toi aussi, tu avais un épisode de Booba en plus?
Non, parce que moi, je m'en suis sorti. Je vous invite simplement à aller écouter un chanteur qui s'appelle Idir, que tout le monde connaît certainement. Idir, c'est un chanteur qui est né en Algérie et qui chante en langue kabyle. Et les langues. Les Kabyles, ça fait partie des nombreux peuples qui forment les populations berbères. Voilà, je me rattrape comme ça. Il avait notamment fait une reprise de La Bohème avec Charles Aznavour, qui est assez émouvante. Donc, il y a en français et en Kabyle, un peu mélangé dans la chanson. C'est plutôt émouvant. Il est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps, il y a, je crois, 5 mois, je crois, en mai dernier. Il n'était pas très vieux en plus, il avait je crois 70 ans. Bon, voilà. Allez écoutez Idir, c'est cool. Ça s'écrit IDIR et ça se trouve un peu partout.
Tip top.
Et toi,
Et toi, Palmado?
Vous êtes parfait. Et donc, comme Orifor, moi j'avais pas trop d'idées pour les recommandations culturelles. J'avais envie de regarder un documentaire, mais je savais pas trop quoi. Du coup, j'ai tapé plein de trucs dans Google et je suis tombée principalement sur des trucs soit de très mauvaise qualité, soit pas doublés. Donc, je comprenais rien. Soit même certains de. Il y en avait un, c'était une espèce de clip promotionnel pour une association, enfin pas une association, une espèce d'entreprise qui avait fait des écoles, machin. Donc c'était très propagande, c'était pas top. Et en cherchant, j'ai fini par tomber sur un format de Mediapart qui s'appelle le Maghreb Express. Et donc dans ce format de Mediapart, il y avait donc une sociologue, je sais plus de quel pays elle vient, mais qui est donc d'origine berbère, Tacedit Yassine, et le photographe Ferhat Bouda. Et donc, ils discutaient de la situation actuelle en fait des populations berbères. Donc, c'est là que j'ai appris que, par exemple, berbère n'est pas toujours considéré comme un terme valable par les populations, parce que ça descend du mot barbare, voilà. Et qu'il y a imaziren, alors je le prononce mal parce que je n'ai aucune prononciation en arabe, mais qui est un terme qui est parfois plus utilisé. Et donc, ils discutaient de ça, et je suis allée voir le travail de ce photographe, donc Ferhat Bouda, qui est donc né en Kabylie aussi, donc comme il dit, et qui vit maintenant en Allemagne, et qui a donc plusieurs projets de photographie des populations donc berbères, parce qu'ils disaient tous les deux que ça les dérangeait pas qu'on utilise le mot berbère, parce que c'est celui qu'on utilise toujours, enfin, c'était juste précisé que c'était pas non plus le meilleur terme. Et du coup, il a fait plein de photos, donc en noir et blanc, sur la façon de vivre des populations berbères donc dans différents pays parce que ça c'est des populations qui vivent en Afrique du Nord mais qui s'étalent sur plusieurs pays. Et donc il y en a donc qui sont très rurales, il y en a aussi d'autres qui sont en lutte par exemple dans certains pays pour faire reconnaître leur culture parce que c'est une tendance générale à essayer d'effacer leur culture plutôt que de la préserver. Il y a des efforts qui sont faits notamment au Maroc mais c'est pas tout à fait suffisant. Et du coup, bah, je vous invite à aller voir sur son site. Donc,
elles sont vraiment très belles.
Ça, ouais. Donc Ferhat Bouda. Donc Ferhat, ça s'écrit F-E-R-H-A-T et Bouda plus loin B-O-U-D-A. Et donc voilà, il y a d'autres photos aussi, hein, il fait pas que ça, mais notamment sa série Berber qui est vraiment très très belle. Et voilà.
J'aime bien parce que Ferhat Bouda, du coup je regardais un peu une interview de lui et c'est très drôle ce qu'il dit. Je suis arrivé en France, j'étais à la rue, j'ai trouvé un appareil photo sur un chantier. Et, c'est genre, et voilà, je fais des photos magnifiques maintenant.
C'est clair, elles sont très très belles, ouais. Et ce format de Mediapart d'ailleurs est intéressant aussi si ça vous intéresse, l'état des populations. Enfin, de l'état actuel de la culture berbère. Enfin, c'est pas hyper complet, ça dure 50 minutes forcément, mais voilà.
Ben, on a fini.
Très bien.
Fini avec les recommandations culturelles.
Absolument.
On est
et
trop
donc,
fort.
C'est vrai. Et puisque tu as la parole, tu peux nous présenter la deuxième pause musicale.
Oui. Ah, et ben, ça tombe bien parce qu'on va un petit peu réveiller les auditeurs.
Ah bah super.
Bon, non, réveiller, ça va être réveiller au sens les démons du midi, réveiller. La dernière chanson s'appelait Let It Go. Alors évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette fameuse chanson de Disney. Mais ce serait quand même un petit peu se foutre de la gueule du monde que de présenter une chanson de Disney bien trop connue dans Calvin Ball.
Recommandez qui est donc le podcast de Yatoz.
Recommandez Ball.
Une reprise donc de Let It Go. Une reprise de Let It Go, mais par un groupe français. Mm. Par Betraying the Martyr. Alors, comme son nom l'indique, c'est un groupe de metalcore. Faut imaginer quand même le truc. Ce truc-là est passé sur une radio nationale à 1h du matin. Et je peux vous avouer que ça fait quand même assez drôle d'écouter ça sur une radio nationale à 1h du matin quand on s'y attend pas. Donc c'est sorti en 2014, et mine de rien, la vidéo sur YouTube a 8 millions de vues.
Wow.
C'est énorme. C'est donc une reprise metalcore de Let It Go par Betraying the Martyr.
Yeah.
putain, c'est beau.
Je l'ai pas écouté encore, attends.
Ah, c'est extraordinaire.
mais là, tu vas voir, c'est fantastique.
C'est extraordinaire, ce morceau.
En effet. Ah, ça donne un autre genre à la chanson.
Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, si tu veux, au moment du refrain, il y a le deuxième gars à la voix claire qui vient baquer et qui vient faire l'amorce du refrain avant que l'autre reprenne derrière. Et c'est il y a un commentaire que j'aime beaucoup sous la vidéo qui est: si vous coupez le son, on dirait la pub de shampoing la plus chère du monde.
Oh, puis le commentaire juste en dessous. Petite fille de 7 ans, papa, est-ce que tu peux mettre la chanson d'Elsa, s'il te plaît? Moi, bien sûr, ma chérie, mais j'en ai trouvé une version encore meilleure.
Allez, tous les commentaires sont goldés.
Mais en plus, c'est très drôle parce que j'étais en train de faire de chercher des titres avec Let It Go en me disant, bon, je vais éviter la Reine des Neiges, et si je vois Yatos qui remplit le conduit avec ça, j'ai bon, ben, allez.
Désolé. Ah, mais il est trop bien, il est trop bien.
Le clip est...
Ah, le clip est merveilleux.
Il est à l'image de la musique.
C'est ça, délicat.
Fin, délicat.
Est-ce qu'on enchaînerait...
Vas-y.
Avec la... Ben, du coup, nous revoilà pour la deuxième rubrique. Donc, on va parler de nos comic strips préférés.
Oui.
Oui.
Et donc, qui veut commencer?
Bah écoute, Bad Vador, t'es la première, tu t'y colles.
Eh bah, très bien. Donc ça, c'est une artiste qui fait des comic strips plutôt qu'un comic strip précis. Donc il s'appelle Kasia Babis, donc elle est polonaise, donc il est fort possible que ce ne soit pas comme ça que ça se prononce. Donc c'est beaucoup de petites BD sur le... Salut le chat. sur le thème de la vie de tous les jours, surtout très orienté féminisme, politique et chat. Donc il y en a un où c'est par exemple qu'est-ce qui se passerait si les hommes flirtaient comme les oiseaux, donc c'est-à-dire en faisant le beau, en rapportant des cadeaux machin, et si les oiseaux flirtaient comme les humains.
Ah, je crois avoir vu ce genre de comic strip quelque part.
J'ai vu passer ce genre de choses.
Voilà, donc bah, je vais pas vous le décrire, je vous invite à aller voir. Et en plus, en ce moment, bah, si vous suivez son compte Twitter, c'est énormément axé sur la... Enfin, pas énormément axé, mais c'était beaucoup axé sur ce qui se passait en Pologne, avec l'avortement notamment. Donc voilà, et il y a beaucoup de choses. Donc c'est forcément, vu que je sais aussi mon orientation très orientée à gauche, hein, c'est pas... Mais voilà. Et il y a aussi récemment des petits comics avec plus dessiné, plus d'ambiance en fait, avec moins de texte, mais qui sont extrêmement beaux aussi. Donc Kasia Babis. Voilà.
D'accord, mais j'ai déjà vu passer des choses de cette personne du coup.
Ouais, ça me dit un truc. Hein.
C'est quand même très relayé sur...
Tout comme le deuxième du conducteur me dit un truc. Myrlène, est-ce que tu nous en parles?
Donc, mon comic strip préféré, c'est un comic strip que vous connaissez très probablement, car c'est sorti en français. Il me semble que le nom de la traduction, c'était « L'âge adulte est un mythe », par Sarah C. Anderson, qui est une jeune femme qui décrit chaque semaine en 4 cases son quotidien. Son quotidien de millénial, qui est souvent coloré, et elle parle de son chat, elle parle un petit peu de sa vie, elle parle parfois de ses petits soucis de santé, notamment de santé mentale, de son quotidien d'artiste. Et moi, je trouve que c'est toujours drôle et rafraîchissant.
Oui, puis assez facile de s'identifier, ma foi.
Oui.
Oui, c'est ça. Dès que tu as un chat, tu te retrouves un peu là-dedans. Mais bon, elle est vraiment très chouette. Un petit côté asocial aussi dans ses comics.
En même temps, comment ne pas être asocial? Surtout en 2020, c'est trendy maintenant.
C'est ça. Elle était asociale avant que ce soit cool.
Tous se mettent à faire des podcasts dans notre coin sans inviter personne. Voilà. Non, c'est pas vrai, on va pas du tout faire ça, parce que c'est plus drôle. Hein.
On s'est toujours promis de faire une IRL un jour, mais
C'est
un
vrai,
jour
mais
peut-être.
dans la capitale du Calvin Ball, du Calvinistan d'ailleurs.
Faudrait.
Eh bah écoute, en 2050, hein, quand on aura passé la 45e vague.
Et du coup, Myrlène, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur Sarah Andersen?
Bah, j'en ai une, oui, mais malheureusement, c'est pas très très drôle. C'est qu'elle a été la cible de 4chan sur Twitter, il y a à peu près 3 ans. Donc ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'elle postait un nouveau strip sur son compte Twitter, tout de suite, en dessous, dans toutes les réponses, il y avait une myriade de parodies. Hein, je mets ça avec des triples, quadruples, quintuples, sextuples guillemets, heptuples guillemets. Faisant l'apologie du Troisième Reich. Oh. Et elle a mis un certain temps avant de pouvoir s'en débarrasser. Si je dis pas de bêtises, ça a quand même duré quelques mois.
Voilà, ne faites pas ça. Et voilà. Si vous voyez des choses comme ça, reportez-les, bloquez-les et voilà.
Et oui, ne les relayez pas surtout.
Voilà,
et ne
les partagez pas. Je sais pas avec.
Et ne les partagez pas pour les dénoncer. Voilà.
Arrêtez de faire de la pub aux nazis.
Voilà. Ça devrait être la tagline de 2020, clairement.
Ouais, la tagline de n'importe
de la vie,
qui, tout le monde partout
vie, ouais.
Tout le temps. Fin...
Ouais, mais des fois, visiblement, il faut le rappeler, donc bon. Et pas très bien. Ori ?
Ouais, alors moi, je vais vous parler d'un Shai Zalowski, qui est un dessinateur de comics que j'aime vraiment beaucoup, qui poste énormément de choses sur Twitter et sur son site internet. Qui a sorti plusieurs BD déjà, avec dont une avec un titre que j'aime beaucoup, qui est « Peu importe les trous noirs dans ma tête, mon cœur est une galaxie ». Je trouve ce titre magnifique.
Oh.
Et sa dernière BD, qui est probablement la dernière BD que j'ai achetée, qui s'appelle « Volcano, la sorcière du cul, la poésie est partie entre-temps ». Shai Zalowski, c'est une personne gender fluide, donc qui parle beaucoup dans ses BD de questions de genre et d'angoisse et de toutes ces choses-là. Qui aime beaucoup aussi les dinosaures et les voyages dans le temps. Et beaucoup le cul aussi. Il y a beaucoup de cul dans ses BD. Moi, ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Alors c'est quelqu'un qui a un côté un peu punk, qui fait mille choses, donc il fait un peu de la... Enfin, il fait complètement de la musique aussi, sous le nom de Edam Edam. C'est de la musique lo-fi, ça s'écoute plutôt... Enfin, c'est plutôt chill à écouter, c'est plutôt sympa. Et voilà, il me fait beaucoup rire, en général.
Ouais, je connaissais, je les vois passer souvent sur Twitter.
Eh ben moi, je ne connaissais pas du tout, mais je vais peut-être aller voir ça.
Oui. Tu vas bien rigoler.
Ouais. Oui. Et toi, Yatos, de quoi tu veux nous parler ?
Alors, le savez-vous ? Je suis un petit nerd. Moi, j'ai nerd, j'ai des lunettes, et je lis XKCD.
Tout le monde connaît XKCD. XKCD,
non.
C'est très bien. Non, vous connaissez pas? Non, sérieux?
Désolé.
C'est très connu pourtant, XKCD. XKCD, c'est un webcomic qui est publié 3 fois par semaine. Ce sont 4 lettres qui ne veulent strictement rien dire. Hein, c'est pas un acronyme ou quoi que ce soit.
Ah, si, je connaissais pas le nom, effectivement.
Forcément. Et XKCD se résume lui-même en 4 mots: sarcasme, romance, maths et langage. Ça ne s'invente pas. Donc c'est systématiquement dessiné avec des petits bonshommes bâtons. Et ça décrit soit des choses scientifiques, soit des choses de langage, parfois des choses de l'actualité ou des choses comme ça. Et c'est dessiné par un gars qui s'appelle Randall Munroe. Randall Munroe, c'est un gars qui a fait un master en sciences, qui a bossé quelques années à la NASA, et puis qui a décidé de continuer juste à faire XKCD. Qui a publié quelques bouquins après à côté avec un autre site qu'il a fait qui s'appelait What If. C'était un site où il répondait de façon la plus scientifique possible à des questions complètement stupides. Du style, quel serait le moyen le plus rapide de transférer tant de gigaoctets de données? Bah, peut-être qu'on pourrait les mettre Peut-être qu'on pourrait utiliser la fibre. Non. Peut-être qu'on pourrait mettre sur des sur des disques durs. Ouais, mais non. Spoiler, le plus rapide, ça reste quand même d'empaqueter tout ça dans des petites cartes micro SD et de mettre tout ça en un carton dans un avion.
Voilà. Oh, ça n'invoque même, ça n'utilise même pas le trébuchet. Je suis vraiment déçu.
Ah, ensuite, ça dépend d'où et où tu veux l'envoyer. Enfin bref. Ils répondent de façon très très scientifique à des questions complètement stupides dans les bouquins What If. Mais XKCD, ben voilà, c'est un petit webcomic toutes les 3 semaines. C'est toujours drôle. Ça arrive toujours à être drôle, même quand c'est des sujets sérieux ou des sujets un peu... peut-être même parfois un peu lourds. Ça arrive même parfois à être assez mignon et assez adorable. Le gars a un trait très reconnaissable, tout en bonhomme bâton comme ça, avec ses petits personnages récurrents. Donc, allez lire XKCD, vous serez sûrement pas déçus. C'est en anglais, par contre.
Ça a l'air génial, son bouquin, où il répond à des questions. Il y en a une, c'est il répond à la question « Que se passerait-il si vous frappiez une balle de baseball à 90% de la vitesse de la lumière ?»
Ah oui, non, c'est fantastique.
C'est complètement des trucs que t'as envie de savoir. Dans...
Alors, mon petit
auquel
préféré...
j'aurais pas pensé personnellement, mais...
Mon petit préféré de What If, c'est « À quelle hauteur faut-il lâcher un steak pour qu'il soit cuit à l'arrivée ?» Je trouve la formulation de la question absolument fantastique et la réponse qu'il est tout autant.
C'est... Oui, absolument.
Et tu ne vas pas nous spoiler la réponse.
Alors, sans trop spoiler, j'espère que vous aimez les steaks cramés à l'extérieur et bleus à l'intérieur.
Bof, je vais continuer à utiliser une poêle.
Ouais.
Moi, je vais continuer à ne pas manger de viande.
Oui, aussi, ouais.
Pour le coup, son bouquin de What If, là, je suis sur la page, il a été traduit dans une bonne dizaine de langues. Le livre est déjà disponible en français, il est à la FNAC, il est partout.
Hey, trop bien.
Donc, ça s'appelle Essie de Randall Munroe.
Ben
voilà, vous cherchiez un cadeau pour votre petit, pour votre petit neveu qui posait des questions à la noix, et ben voilà.
On l'a trouvé. Très bien.
Parfait.
Eh bien, merci pour tous ces comic strips. Et on passe à une autre pause musicale ?
Oui. Alors, là, on va passer au thème des personnalités qui ne sont pas des chanteurs. Mais tout en gardant la condition que c'est des chansons avec le même titre. Donc, les deux prochaines chansons auront le même titre. Et sur le Discord, on m'a envoyé plein de chansons de personnalités qui n'étaient pas des chanteurs.
Pour un bon moment.
Notamment, il y a vraiment des trucs insupportables et horribles à écouter. Mais je suis tombé sur une chanson de Nikos Aliagas qui chante comme d'habitude en grec. Voilà, donc c'est Nikos Aliagas et ça s'appelle Opos Synetos.
Είσαι μικρή κι εγώ διαρκώς σε μία πτήση φτερά έχω στην ψυχή θα πω απλά σ' όποιον ρωτήσει πολλά για μένα λέ σφαίρες πολλές μέσα στο στήθος μα ζω, ακόμα ζω όπως συνήθως κάθε λεπτό που πολεμώ δρόμο τραβώ σ' ένα φως πίστο νύχτα παντού μα είμαι αλλού στον κόσμο ενώ όλα τα ζω και και πίσω όπως συνήθως. Νερό είμαι, κιλό είμαι, φωτιά
είμαι, φωτιά
είμαι. Κάθε στιγμή της, κάθε μέρας μπορεί να ξεχαστώ. Εγώ μίσος, άλυτος γρίφος, δειλός και μαχητής όπως είναι.
Est-ce qu'on reprendrait pas pour la meilleure partie, clairement, de ce podcast.
Quelle puissance à Yoda. Je me souvenais plus de celle-là. Quelle puissance à Yoda. À peu près 18 kilowatts.
Ok.
Ça fait le moteur d'une Smart.
Petit et puissant, comme Skip.
C'est, ouais, c'est hyper. Mais donc, on disait, Bad Vador, tu disais qu'on arrivait au gros de.
À la meilleure partie de ce podcast, clairement.
Tu penses que c'est un peu ce que les gens attendent.
C'est ça. Donc, on est tombé sur. Je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, on devait parler de Mathieu Gallet. Et vraiment, on va pas vous mentir, on n'était pas très inspirés. Hein. Déjà, on n'était pas tous sûrs de savoir qui c'était. Donc voilà. Donc pour resituer vaguement, c'est donc un homme d'affaires qui bosse dans l'audiovisuel, qui a été président de Radio France pendant un moment. Il y a eu plusieurs scandales. À la suite de ça, il a lancé l'application de podcast Magellan, qui a aussi fait scandale parce que il y a beaucoup de podcasts qui se sont retrouvés dessus, qui avaient rien demandé. Et dans la mesure où c'est des gens qui faisaient de l'argent avec leur podcast, ils ont trouvé ça un peu moyen.
Ouais, c'est-à-dire Magellan en fait était censé être une plateforme qui permet de s'abonner à des podcasts payants. Sauf que ce qu'ils ont fait en plus, c'est que pour attirer des gens sur leur plateforme, ils ont référencé sans demander la permission tous les podcasts gratuits qu'ils pouvaient trouver pour dire « Hey, regardez, chez nous, il y a plein de podcasts », alors qu'en fait, ce sont des podcasts ouverts. Le podcast étant un média ouvert en soi.
Voilà, donc des pratiques tout à fait délicieuses.
Ne faites pas ça.
Et signez le manifeste, le podcast est un média ouvert, qu'on mettra un lien dans la description.
Très bien. Et donc, on s'est demandé comment aborder ce sujet. Et donc, on est tombé sur l'idée des cadavres exquis, c'est-à-dire que c'est donc une espèce de jeu littéraire où normalement on fait des phrases, donc une personne ajoute un nouveau mot dans la phrase pour faire des phrases complètes, mais là on va faire plutôt à base de phrases. Et donc, on a des thèmes que Myrlène nous a écrits, si tu veux nous en parler.
Alors, moi, comme je l'ai dit sur le Discord, j'ai deux propositions. Soit vous votez, après que je vous ai lu les titres, soit on fait un tirage au sort au D6.
On est dans quelle vidéo ? On n'est pas dans quelle vidéo ?
Donc on fait un tirage au sort.
On va faire un tirage au sort.
Allons.
Mais attendez, si vous voulez, avant ça, je vous donne quand même les titres.
Oui, vas-y.
S'il te plaît.
Titre numéro 1, Karen Gallet. Titre numéro 2, Le Poilu Mystère. Titre numéro 3, Roulement de tambour. Titre numéro 4, Terre brûlée. Titre numéro 5, String et saké. Titre numéro 6, Triple épaisseur. Et pour chacun de ces thèmes, il y a une petite phrase d'accroche que j'ai écrite, et après, il faudra broder.
Très bien. Alors,
j'ouvre la page Wikipédia quand même.
Voilà, donc franchement, il n'y aura absolument aucune exactitude sur la vie de Mathieu Gallet, hein, on ne va pas vous mentir non plus. Mais voilà.
Ah, mais ce sera très approximatif.
Exactement. C'est un peu le concept du podcast de toute façon.
Oui.
Qui nous tire un D6?
Eh ben, je peux y aller, puisque j'ai random.org d'ouvert. Et donc, ça donne 5.
Oh, chouette.
Ah,
alors,
ah bah oui.
Donc, il s'agit du thème string et saké. Je vous lis la première phrase et ensuite bah, la personne qui veut continue. De son plan pour dominer le podcast mondial, il ne reste plus que la puanteur d'un espoir déçu. Que cela ne tienne, Mathieu Gallet allait réaliser son deuxième grand rêve, devenir champion de sumo.
Très bien. Est-ce que quelqu'un veut commencer ou...
Mais pour cela, il a dû déjà quitter la France et donc quitter les controverses qu'il y avait suite à ces différents conflits d'intérêts, notamment à cause de favoritisme de la part de Françoise Nyssen, pour aller donc rejoindre la patrie du sumo, le Japon.
C'était un rêve qui lui était venu dans un chic resto japonais dans un quartier de Paris, mais je ne sais pas lequel parce que je ne connais pas Paris, où il avait où il s'était découvert une passion pour le saké, et au bout de quelques verres, son esprit s'était ouvert aux merveilles du Japon et surtout de ses compétitions sportives. Voilà.
Mais arrivé à la fin de son voyage, la déception. Personne pour lui apprendre les règles du sumo. C'est à ce moment-là qu'il fit une rencontre dans une ruelle. Un vieil homme qui s'appelait Jean-Marie Cavada lui dit « Va, va en haut de la montagne de la radio. Va, c'est là que ton pèlerinage va te mener. »
Mais dis donc, après avoir fait le tour de la Terre comme Magellan, eh ben, il doit encore se taper l'ascension d'une montagne. Il va donc tout en haut, et tout en haut, qui c'est qu'il retrouve ? Lui qui était au Japon ne pensait pas retrouver Sybille Veil, présidente de Radio France, qui demande le retrait de ses podcasts de l'application Magellan. Et ceci est tout à fait véridique pour le coup. Sybille Veil a véritablement demandé à Magellan que les podcasts Radio France soient retirés de l'application Magellan. Voilà, voilà.
Et à ce moment-là, Mathieu Gallet se dit « Bordel de merde, j'aurais quand même préféré croiser le fantôme de Jacques Chirac, lui qui avait donné tout de même son nom à un championnat de sumo, et accessoirement planqué de l'argent au Japon.
» Alors, si vous voulez que j'enchaîne.
Vas-y, vas-y.
Terriblement déçu par son expérience nippone, il se rappela alors qu'il est membre de la promotion 2014 du programme Young Leaders de la France China Foundation. Là encore, c'est tout à fait véridique. Et part donc se former aux différents sports en vogue en Chine cette fois-ci.
Très bien. Qu'à cela ne tienne, si personne ne veut m'apprendre le sumo, je montrerai un podcast de karaté, et pour ça, j'ai l'intention de recruter les meilleurs champions de podcast de Chine.
Malgré tout, dans son fort intérieur, il était un petit peu déçu, car son rêve le plus cher était quand même de porter un string double épaisseur sur un tatami, en étant applaudi par des foules en délire.
Et surtout, un autre problème, c'est qu'en Chine, ils n'ont pas Google. Ils n'ont pas Facebook, ils n'ont que des choses qui sont chinoises, donc où trouver les podcasts ?
Il se posa la question tout en se resservant un saké, en se disant que certes, il aurait pu apprendre le chinois, après tout, mais que ça prenait trop de temps. Et il lança donc un concours gratuit pour trouver un interprète qui l'aiderait à trouver les grands noms du podcast chinois.
Fort de sa présence médiatique en Chine, et puis c'était tout de même un ancien président de Radio France, il fait alors, puisque Google et donc YouTube n'existent pas, il fait alors importer Dailymotion en Chine. Vu qu'il avait précédemment un partenariat avec Dailymotion en étant patron de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel en France. Et c'est ainsi que Dailymotion devient l'un des sites de vidéos les plus populaires de Chine, site avec lequel il pense pouvoir justement rameuter du monde pour ses futurs podcasts.
Mais à ce moment-là, son passé bien sombre le rattrape, car la silhouette d'un homme se découpe dans la lumière du crépuscule. Il s'agit de Zali Falcam, qui vient lui demander solennellement de retirer une nouvelle fois Calvin Ball de son application Magellan.
Mais ce n'est pas tout. Mathieu Gallet pensait avoir échappé à comment elle s'appelait, Sybille Veil. Mais non, elle était là. Elle l'avait retrouvée en Chine, accompagnée de son escouade de ninjas de Radio France. Et un jour, elle est venue le voir. Elle est venue le voir un jour, s'est assise sur son tatami et en buvant du saké, lui a dit « Tu es parti avec l'argent de la maison de la radio, Mathieu. Tu as cru que nous ne te retrouverions jamais. Il faut payer maintenant. »
Le pauvre Mathieu sentit son rythme cardiaque approcher des 150 BPM. Ce n'était pas très bon signe. Avait-il réellement envie de mourir là, sans être devenu le roi du podcast mondial ?
Il va peut-être falloir en finir. Là,
ouais.
Quand soudain, le fantôme de Jacques Chirac.
Mais qu'à cela ne tienne, Mathieu Gallet prit le premier avion pour les États-Unis et, en partenariat avec Elon Musk, décida d'être le premier homme à enregistrer des podcasts dans l'espace.
The end.
Il n'y a plus qu'à espérer que sur la Lune, la Lune se fasse atomiser comme dans Symphogear avec lui. Voilà.
Bon, quand même, estimez-vous heureux parce que vous avez échappé à certains trucs, comme le thème numéro 2. Mathieu Gallet est un furry.
Oh bah on peut toujours tomber dessus la prochaine fois. Hein.
Ah, parce qu'on peut garder ces thèmes-là pour la prochaine émission.
Je te rappelle qu'il y a une deuxième émission, ouais, donc ça okay, va nous être utile.
Je ne vous spoilerai pas.
Sauf si quelqu'un veut se dévouer pour écrire une fanfic Mathieu Gallet dans l'espace.
Écoutez, je pense pas que vous ne donnez assez d'argent au Tipeee pour qu'on s'engage à faire ça.
Ouais, non. Mais par contre, si vous le faites, moi je m'engage à faire ça avec un crossover avec FF8. Vous savez, quand vous êtes perdu dans l'espace, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qu'après vous tombez sur un vaisseau, qu'il y a des aliens dedans, qu'il y a des monstres sur la Lune et que rien n'a de sens.
Et tu as Mathieu Gallet qui vient te chanter Eyes on Me.
Ah bah écoutez, il va falloir donner de l'argent au Tipeee maintenant. Et sur ces belles paroles, eh bien, nous allons encore faire une pause musicale.
Je crois qu'on en a tous besoin.
Oui.
Alors, du coup, c'est encore une version de My Way, mais cette fois chantée par Christopher Lee. Parce que Christopher Lee a une vie extraordinaire, et en plus d'être acteur, il a été chanteur. Oui, il a été agent secret aussi, mais il a été chanteur pour le coup. Il a fait des albums de Noël qui sont vraiment très cool, des espèces d'albums de Noël métal.
Arriver à rendre un album de Noël cool, faut quand même s'appeler Christopher Lee.
C'est clair.
Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, bah, il a repris My Way.
Thank you.
On est reparti et on arrive au... vous aviez cru que la vie de Mathieu Gallet, c'était la partie la plus compliquée de l'émission, mais pas du tout.
Honnêtement, je suis assez surpris, vu comment on s'en est sorti pour Mathieu Gallet, on s'en est plutôt bien sorti, hein, je trouve.
C'est vrai.
Ça aurait pu être pire. Hein.
C'est vrai.
C'était parce que la souffrance, elle commence maintenant.
Non, elle a commencé quand on a regardé.
Oui, certes. La souffrance, elle est ici. La souffrance, c'est Booba. Qui pour nous introduire ce qu'est Booba ?
Eh bien, moi je veux bien. C'est une émission pour bébés et tout petits enfants, donc qui passait en 2003-2004, donc qui est britannique, qui compte 104 épisodes de 25 minutes, donc 104 épisodes de pur bonheur. Et donc, ouais. Les Boobas, qui ne sont pas, comme on s'est rendu compte, Auré et moi, n'est pas le petit ourson très mignon, mais des espèces de machins velus de couleur qui sont entre le poussin géant et je sais pas trop quoi.
Pour moi, c'est clairement des poussins aliens. Hein. Enfin,
ouais.
Avec des acteurs dedans.
Lumineux.
Avec des vrais acteurs dedans, ouais.
J'espère qu'ils étaient bien payés quand même.
J'ai une anecdote sur l'un d'entre eux. Je suis allé chercher sur IMDb.
Et donc, je finis, puis après tu peux me dire. Et du coup, en plus des 5 poussins très chelous qui ne parlent pas, il y a des membres de la famille. Donc, il y a mamie et papy, et papa, maman, et. Non, monsieur et madame. Le frère, la sœur, l'oncle et la tante. Ils n'ont donc pas de prénom, ils sont juste des fonctions. Et ils ont l'air entièrement morts à l'intérieur, et ils font des choses sans parler.
En fait, on dirait des pantins animés, c'est-à-dire ils ont des cordes, des ficelles, je ne sais pas, mais on dirait vraiment des pantins, c'est-à-dire on dirait pas que ce sont des personnes humaines vivantes.
Voilà, et donc ça dure 25 minutes, il y a une intro qui est interminable, après les Boobas ils dansotent, après il se passe quelque chose avec les gens, et après les Boobas ils redansotent, et après ils vont se coucher, et c'est fini, et
ça commence. Les épisodes commencent toujours par des enfants qui mettent des espèces de cadeaux dans un vortex arc-en-ciel.
Et puis qui les invoquent en criant Booba, comme ça, ça fait presque rituel satanique.
C'est ça.
Ou donc, invocation de Bloody Mary.
Aussi.
Un peu.
Tu crois que si on le lit trop souvent devant son miroir, ils arrivent chez toi ? Moi, je suis pas prête, hein.
Bah écoutez, déjà qu'on va devoir s'en retaper pour la fois prochaine.
C'est vrai. Mais,
en plus, les Boobas, ils ont un peu cette tête de... Tu sais, quand tu regardes des gens à l'envers, quand t'as le menton
oui,
en
c'est
l'air
vrai.
Et les yeux...
Un peu.
Ils sont vraiment très très bizarres.
Ouais, puis ils ont des yeux de Furby.
Ils ont des yeux de Furby, et les passages où on les voit, il y a régulièrement des passages accélérés, même plus ou moins tout est déjà accéléré de base, et puis il y a certains passages où c'est passé à l'endroit et à l'envers, vous voyez, donc ça, quand ils tombent parfois, et du coup ils se relèvent en faisant passer la bande à l'envers.
Oui, c'est
ce
ça.
Ce qui donne presque un côté YouTube poop à l'ensemble.
C'est vrai, t'avais une anecdote sur...
Alors, j'ai une anecdote sur... Une des personnes qui est dans les costumes de Booba, alors je ne saurais pas dire lequel c'est, en tout cas il s'appelle Jumba, c'est le Booba qui s'appelle Jumba.
Oui, parce qu'ils ont des noms.
Ils ont des noms, alors bien sûr c'est Jingba, Jumba, Zumba, Kumba et Zinzin Dingba. Alors, celui-là,
donc
je sais pas pourquoi il est spécial.
Ne les aimait pas, donc.
Vous pouvez trouver sur des wikis quels épisodes feature quel Booba en tant que leader de l'équipe, c'est très bien documenté.
Ah, parce qu'il y a des leaders qui changent à chaque épisode. Okay.
Ouais, un peu. Et donc, ce gars-là, qui est d'ailleurs le seul gars à avoir une photo sur IMDb, s'appelle Philip Morris Hayes. Il est évidemment britannique, comme tout le cast. Et on peut le retrouver au doublage de certaines séries télé, pas forcément très connues chez nous, mais certains jeux vidéo qui pourront peut-être vous dire un truc. Si je vous parle de EverQuest 2, ou de Titan Quest, et ben il fait des voix dedans.
Okay.
Ou même un peu plus récemment en 2010, Dead Rising et Dead Rising 2, il fait des voix dedans. Il a également doublé des trucs dans Superliminal. Il était peut-être acteur en Superliminal. Non, c'est, non, c'est autre chose. Il a été acteur dans Supernatural, pardon, une autre série télé. Aquarius, série télé de 2016. Et plus récemment, on le retrouve dans une, au doublage dans une série de dessins animés pour enfants, Nico and the Sword of Light. Voilà. Il a fait beaucoup de doublages, un petit peu de jeux d'acteurs, pas beaucoup. Surtout du doublage, en fait.
Mais, il a donc une carrière après Booba.
Visiblement, il était encore actif entre 2017 et 2019. Donc c'est peut-être le seul qui s'en est bien sorti.
Bravo à lui.
Mais
je t'avoue que quand tu nous as dit que t'avais une anecdote, je m'attendais à un truc genre il est en prison pour avoir massacré une famille ou un truc comme ça.
Oh non.
Donc ça va.
Je pensais à ça aussi. Ouais.
Donc voilà, c'est un monsieur derrière les voix de Dead Rising et Titan Quest. Pour très nous, bien. En tout cas.
Parce que voilà, c'est quand même très 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 chelou et un peu flippant.
Mais je note un truc quand même, c'est que les noms des Boobas sont encore plus pourris que ceux des Teletubbies.
Oui,
c'est vrai.
Et ça, c'est une performance.
Alors, c'est vrai, mais ils sont peut-être pas aussi pourris que ça si on est anglais. Peut-être qu'en étant anglais, si tu veux, les sons sont plus naturels à l'oreille pour un enfant. Mais du coup, je veux bien leur accorder le bénéfice du doute, tu vois.
Ouais.
Alors, il y a un autre Booba... Il a fait Booba en 2003 et ensuite son seul rôle derrière c'est cascadeur pour le film Cendrillon de 2015.
C'est une carrière.
C'est-à-dire il a rien fait entre 2003 et 2015.
Bah, il a besoin de s'en remettre, attends.
Oui, il doit y avoir certainement des.
Oh putain, ce film, je me suis endormie devant.
Je savais même pas qu'ils avaient fait un Cendrillon récemment.
Oh, de toute façon, ils ont tout refait, hein, La Belle et la Bête, Le Roi Lion.
Ouais, c'est vrai.
Moi, j'attends toujours qu'ils refassent Taram et le Chaudron Magique.
Lol, jamais.
Et donc, on a regardé 3 épisodes parce que on a dit que 3 c'était suffisant. Mais... certains d'entre nous en ont regardé 4.
À cause d'une bévue de Joc qui a mal nommé un des épisodes.
Bah, ça dépend si c'est basé sur la liste de Wikipédia, c'est effectivement ça.
Liste de Wikipédia n'est pas la même que la liste d'IMDB et qui n'est pas la même que la liste sur le site officiel. Non, c'est pas site officiel, je ne sais pas. Wikipédia référencé à site officiel, mais c'est une vieille archive, alors c'est pas marqué dedans, enfin bref. J'ai fait des recherches.
Hein. Et bah oui, bah, c'est bien, t'es plus courageux que moi, parce que moi, une fois que j'ai regardé, j'ai fait « Ah, ça suffit !»
C'était la partie la plus drôle.
Comme on s'est dit que c'était pas marrant de juste regarder les épisodes de Booba, on s'est imposé des conditions particulières pour les regarder.
Ouais, alors, ils se sont imposés. Hein. Moi, je ne me suis rien imposé du tout. Hein.
C'est Myrlène qui a eu cette brillante idée, d'ailleurs.
Ce qui était une très bonne idée.
Et donc,
du coup, Myrlène, si tu veux nous parler de ton expérience et des modificateurs que tu as utilisés.
Alors, moi, j'ai suivi la liste de Joc, ce qui fait qu'il y a, je crois, un épisode que j'ai regardé qui était différent des vôtres, mais bon, c'est Booba, c'est un peu toujours la même chose.
Moi, j'en ai regardé 4, donc c'est bon, j'ai regardé tout.
Oh, l'abnégation.
J'en ai regardé 4 aussi.
Une heure de Booba, ça suffit. Donc, le premier épisode pour vivre l'expérience Booba, je l'ai regardé tel quel.
Donc, avec le son.
Avec le son, en plein écran.
Et les piaillements de poussins. Et de... Oh, c'est quelle horreur.
C'est l'épisode 16, c'est ça ?
Voilà. Le deuxième épisode, je l'ai regardé en changeant la piste sonore. À la place, j'ai mis une interview de Michel Foucault. Donc, comme vous le connaissez, le philosophe et auteur notamment de Surveiller et punir. Et dans cette émission, il parlait de... l'arrivée de la psychiatrie dans les cours de justice et comment leur rôle de soin s'est lié en rôle d'enfermement.
Oui.
Et enfin, pour l'épisode 48, j'ai mis en fond sonore le film Koya Niskatsi, dont la bande-son a été composée par Philippe Glass, et c'était une expérience très particulière, mais très intéressante.
Et du coup, comparativement, c'était quoi le plus supportable ?
Je pense que le plus supportable, c'était Fit Michel Foucault, parce que je me suis concentrée sur ce qu'il disait. Par contre, j'ai pris des notes sur les 3 épisodes, si vous voulez.
L'épisode 16, c'est Cushion, c'est celui où il s'assoit sur une dune et il se pousse parce qu'il n'y a pas assez de place sur le fauteuil.
C'est ça.
Oui.
C'est ça, et après il roule dans le sable.
Oui, autant vous dire que Grande Mama de tous les personnages, c'est celle qui me fait le plus peur.
Mais ça m'a posé problème parce que.
Non, le grand-père est très bizarre.
Le grand-père, il est freaky. Hein. Mais on va reparler du grand-père anglais... après avec la glace, mais terminons oui. avec les cushions.
Dans tous les trucs anglais que j'ai entendus, on disait toujours grandma, grandmother. Mais grandmama, je ne l'ai jamais entendu. Ça m'a fait... Et... Ça m'a sorti de l'épisode. Et dans mes notes, j'ai... Qu'est-ce que j'ai ? J'ai... Il est putain de long, ce générique.
Ça dure 6 minutes, 6 minutes 30, quelque chose comme ça.
En fait, il faut imaginer un truc comme ça. Il y a des enfants qui font une incantation démoniaque. Il y a ensuite un travelling sur les boobas qui se réveillent depuis leur lit, qui est en fait une sorte de cuillère à ramen.
C'est
ça. Osez dire que c'est pas ça.
C'est complètement ça.
C'est les cuillères qu'on donne dans les restaurants chinois.
Ouais, c'est ça. Et ensuite, du coup, il y a d'abord un premier moment où les boobas font une sorte de d'échauffement physique, en gros. Ils bougent un peu dans tous les sens. C'est censé aider les nourrissons à avoir conscience de leur corps et à avoir conscience de leurs membres, etc.
Ah, c'est ça.
À l'origine, c'est pensé pour ça, Booba. C'est pensé pour éveiller les nourrissons à la conscience musculaire et motrice.
Oh, waouh!
Donc, il y a une partie comme ça. Ensuite, il y a un segment avec voilà, les personnages de grand-papa, grand-maman et les frères et les sœurs qui font des trucs chelous.
Oui.
C'est un peu bizarre.
Oh,
et ensuite, il y a une deuxième partie où les boobas bougent dans tous les sens. Ils s'agitent un petit peu n'importe comment. Et puis après, eh ben, ils se rendorment. Quand il y a un grand arc-en-ciel qui passe sur l'écran, ils se rendorment. Ils revont dans leur cuillère à ramen et ils filent vers l'infini avec un arc-en-ciel. Voilà, voilà le schéma de 20 minutes que certains d'entre nous se sont tapés 4 fois.
Et donc, ouais, concrètement, les épisodes où le moment de l'épisode où il se passe vraiment un truc, c'est 6-7 minutes au milieu.
C'est ça, où il y a les grands-papas et grands-mamans, et c'est le seul moment qui est où on arrive à faire la différence entre les épisodes, en gros. Parce que le reste, tu peux pas faire la différence. C'est pas...
Alors, moi, j'ai
ils font juste une danse sur...
Ouais, mais moi, j'ai vérifié, les danses ne sont pas les mêmes.
Ah oui, elles sont pas les mêmes. C'est pas un générique. C'est pas réutiliser les mêmes images. Attends, tu te crois où? Booba c'est un programme qui a été nommé au BAFTA pour le meilleur programme pour les nourrissons.
Et je comprends pas, parce que normalement quand tes parents étaient terrifiés par un truc que tu regardes, t'infliges pas ça à tes enfants.
Mais
c'est pas possible.
En même temps, j'imagine que tu dois avoir aussi ce truc où le fait d'avoir plein de couleurs, ça te stimule visuellement les enfants, ça les encourage à bouger en rythme, de faire des trucs comme ça.
C'est clair qu'il y a des couleurs, hein. Ça dégueule des arcs-en-ciel de partout, ce truc.
Ça ouais. dégueule des arcs-en-ciel et ça dégueule des arcs-en-ciel vite. Comme je dis, ouais. c'est un truc qui est accéléré.
Ouais,
c'est presque, on agite les clés devant les yeux, quoi.
Ne faites pas regarder ça à vos enfants épileptiques, en fait. C'est une très mauvaise idée.
Ouais, ouais.
Alors, en fait, un enfant épileptique aura aucun souci avec ça, parce que le problème de l'épilepsie, c'est un problème différent. Mais bref.
Ouais.
C'est quand même un peu... Ça prend la tête à regarder, quoi. Ça prend la tête. Il y avait d'autres modificateurs. On était sur les modificateurs. Il y a certains qui ont regardé ça, de la chitiflute ou des trucs comme ça, je crois.
Absolument. Moi, j'avais déjà regardé les deux premiers épisodes en normaux, parce qu'on n'avait pas parlé de modificateurs encore, et que j'avais commencé mes devoirs en avance. Et c'était incroyablement long et terrifiant. Et je les ai regardés sur plusieurs jours. Et après j'ai regardé donc le dernier, donc moi j'ai regardé celui au fond des glaces du coup, et avec en mettant des morceaux.
Il est très bizarre cet épisode.
Il est un peu terrifiant.
En mettant des morceaux à la chitiflute derrière et du coup j'avais mis une playlist donc, qui défilait derrière, et donc ça a commencé par Take On Me de Ha-Ha. Et c'était absolument hilarant, parce que déjà, la chitiflute c'est chelou et c'est assez drôle, mais alors avec les boobas qui ont l'air effectivement de se dandiner en rythme là-dessus, c'est complètement surréaliste et j'ai réellement rigolé devant le truc que j'étais en train de regarder.
Oui, il y a un grand décalage, il y a une sorte de synergie étrange qui doit se former entre les yeux et les oreilles.
C'est ça, et puis même les espèces de mouvements, du coup, t'as l'impression qu'ils bougent vraiment sur une espèce de rythme étrange qui n'est pas prévu pour à l'origine, parce que c'est pas du tout la bande-son.
Et donc, d'ailleurs, après... c'est curieusement très très minimaliste comme son. Il y a pas de musique, il y a pas de trucs comme ça, c'est très très bizarre. Au moins, dans Teletubbies, il y a des jingles, il y a des musiques, tu t'y raccroches, quoi.
Et donc ça, Take On Me a enchaîné sur Bohemian Rhapsody. Là, c'était très bizarre. c'était juste vraiment bizarre, j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue sans en avoir pris. C'était une expérience un peu longue, mais intéressante. Puis ça a enchaîné sur Toto, donc Africa, à peu près au moment où ils font les glaces. Enfin, un peu sur la fin des glaces. Oh, et alors là, déjà que le moment où ils font les glaces, parce que c'est le grand-père qui arrive et qui... Il se retrouve avec une glace, perd les boules de sa glace, qui se retrouve avec une machine à glace qui ferait plus, qui fait des glaces.
Ouais, il sait pas s'en servir.
En gros, c'est le grand-père qui a les yeux plus gros que le ventre et qui fait une glace beaucoup trop grosse et qui arrive plus à arrêter la machine à la fin, quoi.
Voilà, mais avec la glace qui ressemble quand même à de la mousse à raser ou un truc comme ça. Enfin, vraiment,
oui,
ça donne
ouais,
pas.
En fait. Ça met un peu mal à l'aise. Enfin, tu vas pas quand même pas manger ça, quoi.
Voilà, et donc après, les Booba qui dansaient sur Let It Go, donc du film Frozen.
Décidément, il y a un pattern avec ce truc aujourd'hui.
J'avais pas fait exprès en choisissant, j'avais juste laissé la compilation se faire. Et à la toute fin, quand ils s'endorment, il y a le thème de Star Wars qui a commencé. Et vraiment, c'était parfait. Et autant vous dire que vraiment, j'ai pas trop aimé regarder Booba, autant cette expérience de 25 minutes à la chitiflute. Je regrette pas complètement d'avoir vécu. Je sais pas si je referais en revanche parce que c'est un peu éprouvant pour mes oreilles.
Tu l'as assez bien vendu pour que j'essaye la prochaine fois.
Mais franchement, ça valait le coup. Voilà,
mais en plus,
c'est mon expérience.
Ils donnent de la glace aux chiens. Il faut pas faire ça.
Ouais, en plus, ils ont mis une boule en plastique clairement dans la glace, donc ça fait pas vrai du tout. C'est très dérangeant. Je sais pas.
Et donc, en termes de modificateurs, il y a aussi eu de la technobriga, je crois, si je remonte
ouais.
Le... C'était horrifiant.
Ouais, alors moi, j'ai regardé l'épisode avec les glaces, c'est ça?
Ouais.
Non, j'en ai regardé deux avec de la technobriga. J'ai regardé donc l'épisode Ice Cream Cone et un autre qui s'appelait Necklace, je crois.
Oui, je crois qu'on a vu le même.
Ouais, Necklace.
Ouais. Necklace, qui est un épisode très, très bizarre.
Ils sont tous très bizarres, mais...
Oui, c'est vrai. Et je sais pas ce qu'elle fait, elle ramasse des énormes perles devant elle les aligne, elle fait genre « Ah, rouge, bleu, jaune !» Et puis à la fin, elle fait « ça marche pas, je les ai pas mis dans le bon ordre !» Et elle met un temps infini avant de les remettre dans le bon ordre.
Ouais, ça limite, tu vois... Ça, à la limite, je trouve que c'est le truc le plus compréhensible parmi les trois. Parce que les trois qu'on a vus, en gros, donc c'est Necklace, une jeune femme qui ramasse des espèces d'énormes perles, les place dans une suite qui fait sens, avec des couleurs qui sont répétées, et avec une mélodie qui est croissante dans la gamme. Donc c'est logique. Les choses sont cohérentes. Les autres épisodes qu'on a vus, c'était donc le papy qui a une machine à glace et qui fait une énorme glace et ne mange pas ça. Enfin, au pire, ça va te donner mal à... Même
en
si c'est de la bonne glace, ça va te donner mal
à
mal au ventre.
À frère et sœur, il leur file des glaces aussi.
Et il leur file des glaces aussi, ça ne va pas. Et l'épisode avec les instruments de musique, c'est juste des instruments de musique qui pop de façon aléatoire. Des gens qui prennent les instruments de musique de façon aléatoire et qui jouent des notes aléatoires avec. Donc c'est juste un truc cacophonique bizarre et après on dirait qu'ils sont un peu hilars, je ne sais pas trop pourquoi.
Ah, ils sont contents, ouais. Mort
ouais,
à l'intérieur,
ils sont
mais
un peu
contents.
Hilars, c'est assez malaisant. Donc oui, Necklace, c'est celui qui a le plus de sens. Hein. C'est une suite de couleurs et une suite dans la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si,
voilà.
Do. Ça a du sens.
Tout ça sur... Mais moi, j'avais pas la musique.
Bah oui, tu avais de la technobriga.
J'avais de la technobriga.
Ah oui, mais écoute, tu cherches les emmerdes. Donc, pour nos auditeurs qui attrapent cette timeline maintenant et qui ne savent pas ce qu'est la Technobriga, et ben cherchez Technobriga sur YouTube, vous allez voir, c'est drôle.
Et ensuite, vous pourrez remercier Jock.
Moi, ce qui m'a dérangé dans l'épisode Necklace, c'est la forme des perles.
Oui, je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'elles ont, les perles ?
On dirait des flotteurs pour piscine.
Non, on dirait autre chose, mais...
Il est l'heure de nous dire en quoi tu as l'esprit mal tourné.
Vas-y, raconte.
Ça m'a fait penser à des choses que tu peux utiliser, par exemple, pour muscler ton périnée.
Ah. Très bien.
Je vais dans la hornigène.
Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, j'y avais pas pensé.
Et du coup, la voir surjouer et sourire avec ces trucs... J'étais tout en écoutant du Michel Foucault, j'étais...
Oui, mais alors, parce que du coup, au début, elle se fait un collier avec ses perles énormes, elle se le met autour du cou, mais c'est trop lourd, Donc, ils font une espèce de magie pour rétrécir le collier et qu'elle puisse danser après avec le collier à la bonne taille.
Ouais, bah ça va quoi. Enfin, c'est bon. Mais ok, ta gueule, c'est magique, mais.
Il y avait de la techno-brega dessus.
Bah, ok, elle dansait sur la techno-brega. Écoute, qui n'a jamais dansé sur la techno-brega? Je pose la question.
Voilà. Bon.
Moi, je dis pas qu'il y a une réponse.
Et est-ce que, Yatos, tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que c'est la techno-brega?
Ah, je vends la mèche. Je vends la mèche. Alors, la techno-brega, c'est un genre de musique qui vient du nord du Brésil et qui veut dire très littéralement, en fait, techno démodé. Vous voyez? C'est vraiment, vraiment...
Ça c'est littéralement ce que ça veut dire. C'est, ouais.
Donc, c'est des genres de remix de techno très très cheap qu'on trouve souvent en compile de 45 minutes, 1 heure, fait par des DJ locaux et qui sont véritablement appréciés au premier degré hein, là-bas. Et aussi parfois au second degré, hein, faut pas déconner. Mais voilà, ça se vend, c'est véritablement apprécié au moins au deuxième degré. Voilà, cette petite bordure au nord du Brésil, et c'était notre ami Joc qui nous en avait fait profiter, puisqu'il avait passé quelques temps en Guyane française.
Et je dois dire que moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus horrible que ce
que j'ai
écouté.
Pas horrible, c'est juste de la techno démodée, quoi. C'est drôle.
Donc tu avais un autre modificateur, non?
Oui, j'ai regardé l'épisode 20, donc Musical Instrument, en écoutant Nosrat Fateh Ali Khan.
Quid?
Oui.
Alors, c'est un chanteur soufi qui est pakistanais. Je crois qu'il est décédé il y a très longtemps, ou pas longtemps. Non, il est complètement décédé en 97.
C'est un moment, donc.
Et je sais pas si vous connaissez un peu les chants soufis et
alors, pas du tout.
Un petit peu.
Pas du tout.
Alors, c'est... je saurais pas comment vous le décrire, mais écoutez un peu, c'est vraiment très beau, c'est les chants traditionnels, côté très méditatif, très entraînant comme ça, c'est vraiment les trucs pour qui sont méditatifs, ouais, je sais pas comment le décrire. Un côté très spirituel comme ça.
Maintenant, j'essaie d'imaginer ce que ça rend avec Duba.
Et ben, du coup, tu trouves une espèce de paix intérieure, quoi.
Mais est-ce que c'est spirituel, genre les chants grégoriens?
Non, pas vraiment. C'est vraiment plus. Enfin, je vois.
C'est des mélopées un peu lancinantes.
Ouais, c'est ça.
Comme les chants mongols, peut-être?
Un peu, mais ouais. Moins avec ce truc de la gorge, quoi.
D'accord.
Je me rends compte que je ne fais pas du tout honneur à Nosrat Fateh Ali Khan, alors que j'aime beaucoup...
Écoutez, ce que je peux vous dire... je vais prendre 30 secondes là, on va s'en mettre un petit peu.
Avec Booba.
Il y a un truc je me suis posé et j'ai regardé l'épisode en écoutant ça et j'étais hyper détendu. Contrairement à la techno-brega en plus j'ai passé l'épisode 1.5 pour écouter la techno-brega.
Donc un épisode qui est déjà accéléré, enfin déjà le truc de base est accéléré, hein, on est d'accord. notre pilote de Formule 1 Orifan, là, il nous passe ça en 1.5. Mais après, tu cherches les ennuis. Je suis désolé.
Mais ça, les deux marchaient très bien.
D'accord. Non, d'accord.
Bien, voilà. Eh bien, est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose sur Booba?
J'ai hâte d'en revoir.
Non, bah voilà. Oui. Ouais, oui. Eh bien, on ne sait pas si on vous conseille ou pas, mais si vous les regardez, regardez-en un normal et un avec un modificateur. C'est une expérience, visiblement, avec tous les modificateurs.
Et voilà. Et donc, a priori, on regardera encore 3 autres épisodes pour la prochaine.
Enfin, les gens qui participeront.
Les gens qui participeront.
Ouais, mais on a tellement aimé cette expérience que...
Ah, il faudra. On verra.
Attends, mais on va chercher les modificateurs les plus débiles.
Voilà.
Ouais, et puis avec les gens du Discord, on devrait trouver. On devrait pas être à court d'idées.
C'est passer un épisode à l'envers ou des trucs comme ça.
Mais on est arrivé à la fin de l'épisode.
Mais dis donc.
On arrive
au fameux moment du tirage au sort.
Mais dis donc.
Et donc, ce qu'on a décidé pour cette timeline, c'est de tirer directement au sort nos thèmes dans l'Ultra Cimetière. Qui est donc dans la timeline normale de Calvin Ball, c'est là où donc les thèmes qui sont supprimés du tableau des thèmes et des propositions pour différentes raisons, principalement des modificateurs chelous. Et donc, ce thème, cet Ultra Cimetière 2000, comporte 2097 thèmes, je crois.
Alors, Ultra Cimetière MK2, quand même. C'est, okay. la deuxième version de l'Ultra Cimetière, parce que le premier Ultra Cimetière contient déjà 917 thèmes.
Mais nous, on aime le challenge.
Mais nous, on a essayé de prendre l'Ultra Cimetière 2000 version 2.
Et alors, du coup, vas-y. Est-ce qu'on va lancer déjà un dé pour savoir combien de thèmes on va tirer?
Bad voilà. Valor, bourreau, fais ton office, lance-nous un D6.
Alors, nous aurons 2 thèmes.
Oh, bah ça va.
Très bien.
Plus qu'à lancer un dé 2097.
C'est ça. 2097 et c'est parti, ça nous donne le thème 1562.
Ouf.
Alors
1562.
C'est loin.
C'est très loin.
Alors 1562, CK nous proposait 12 petits hommes verts. 12 histoires entre guillemets vraies centrées sur des extraterrestres.
Très bien.
Oh, bah très bien.
Merci CK. Et donc
un deuxième dé,
477.
Ouf, ça... 477. Ça va loin, ça.
Alors, c'est proposé par Yatos, le loup géant inuit a parlé.
Oh non.
Tu seras donc obligé d'être là, Yatos.
Ce sera surtout une émission pas très intéressante.
Non.
Puisque loup inuit a parlé. Si je me plante pas, la seule et unique pause musicale sera Amarok de Michael Field.
C'est ça, en une fois.
En une fois, qui est donc un titre qui fait exactement une heure. C'est un titre de musique qui fait une heure. On se passera donc à Maroc et on parlera d'histoires d'extraterrestres.
Et bien voilà. Des épisodes 5 et 6 extrêmement expérimentaux.
Ah parce merde, mais deux fois.
On l'écoutera deux fois.
Voilà, parce que
le
modificateur n'a pas été annulé, il s'applique toujours à cette timeline.
C'est les épisodes combien? Attends, modificateur, c'était uniquement les 3 prochains épisodes qui seront doublés.
Ah, ouais. Bon, ça dépend. Est-ce qu'on compte les doublages ou les épisodes de base?
Du coup, les épisodes 1, 2, 3 font 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc mais si c'est l'épisode 5, 6, ça fait 5, 6.
Absolument.
Et bien
donc,
merde.
Après ça, on sera libéré de ce modificateur.
Vous écouterez deux fois à Maroc en entier. Mais pourquoi j'ai proposé un truc pareil?
Eh bien, on aimerait bien le savoir.
Je pensais pas que ça tomberait deux fois, surtout. Une fois, c'est drôle. Deux fois,
merci,
c'est drôle.
Merci, Atos.
Eh bien, désolé. Écoutez, cette timeline commence du bon pied.
Ah, elle est ultra cursed.
C'est
bien.
Définitivement la timeline cursed.
Et dire qu'à côté de ça, on aurait pu avoir certains thèmes comme Cindy 2002, proposé par le Mollusque.
Ah, mais Cindy, il est trop bien.
Mais oui.
Ah, c'est fantastique, c'est malheureux, mais...
On n'est pas à l'abri que ça tombe, hein.
On n'est pas à l'abri que ça tombe. Mais donc voilà, 12 petits hommes verts et le grand loup inuit à parler.
Voilà.
Si on arrive jusque-là, parce que d'ici là, il y a 4 émissions, 3 émissions encore à enregistrer.
Ouais. Ça fera déjà pas mal, ouais.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Voilà, et donc on va faire encore une pause musicale.
Oui.
Juste avant la conclusion, ouais.
Ouais. Vas-y. On revient sur des titres qui s'appellent Let It Go, et c'est un chanteur hongkongais qui s'appelle Jackie Chung. que je ne connaissais alors absolument pas. Mais d'après Wikipédia, c'est un des quatre rois célestes de la cantopop. À Hong Kong, il est surnommé le dieu chanson. Et je crois que c'était en 1995, la seule personne qui dépassait ces nombres d'albums vendus au niveau mondial, c'était Michael Jackson.
Ah, dis donc.
Voilà. Et je n'avais jamais entendu parler de cette personne. Et il a chanté Let It Go, voilà.
Ce Calvin Ball Alternative est un podcast du Calvin Ball Consortium. Donc le podcast principal Calvin Ball possède une page Twitter, Facebook et SoundCloud. Ainsi, et tous les podcasts du consortium sont réunis sur un serveur Discord. Donc venez nous rejoindre si vous avez envie de dire que vous avez faim, voir des photos de chats et discuter de sujets complètement aléatoires.
Et proposer des nouveaux thèmes peut-être pour la véritable timeline de Calvin Ball qui reprendra un jour peut-être quand l'épisode 42 sera sorti.
N'hésitez pas non plus à découvrir les autres podcasts du consortium comme le Gapicast, le retour du jeudi recommandé qui est présenté par Yatoz, KSSD, MJE, Ludographie et j'en ai certainement oublié le Bestiaire des Besties notamment et bien d'autres podcasts.
Et Calvin Ball et MJE. Et
voilà.
Peut-être qu'on en oublie encore un, je crois. Je ne sais plus. Les règles du jeu, qui nous a rejoint très récemment. Oui. C'est un podcast en 7 épisodes.
Une série d'interviews sur différents parcours dans le monde du jeu vidéo.
Et Ludographie, je ne sais pas si on a dit.
On l'a dit. Ouais. Et voilà. Il nous manquait l'appel de Cthulhu.
Voilà. Ah voilà. Désolé. Et donc, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez également donner au Tipeee. Et bah, quant à nous, on vous remercie de nous avoir écoutés dans cette timeline alternative. Et on se quitte sur une dernière pause musicale. Mais en fait, non, pas du tout, parce qu'il y en avait assez. Donc ce sera le générique de fin. Merci à tous.
Ou peut-être qu'il y aura une pause musicale.
Peut-être que je rajouterai un truc au hasard d'un chanteur connu. Je sais pas. On verra
voilà.
Bien.
Eh bien, nous ne savons pas à l'heure actuelle. Eh bien, merci à tous d'être venu pour enregistrer ce podcast.
Eh bien, merci à vous. Merci de nous avoir écoutés.
C'était un plaisir.
C'était drôle.
Ouais. Oui. C'était chaotique et magnifique. Oui, juste deux petites secondes. Qu'est-ce que tu veux encore, face de paix? Oui, je sais, c'est 19h, c'est l'heure des câlins, mais il va falloir attendre.
Ça, ce sera gardé et mis à la fin de l'épisode.
C'est ça, car la timeline alternative, c'est une timeline avec des chats.
Bon, comme toi, Internet, quoi.
Oh, il a l'habitude, je l'appelle face de paix, tête de cul. Hein.
Classique.